Pierre-Henri. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une expression purement imaginative dans le sens négatif du terme. Si vous commencez à faire assez sérieusement de l'exégèse technique, là vous en faites souvent avec Michel Prince, vous devez subodorer, deviner de quelle capacité intellectuelle, rationnelle, précise il faut disposer pour arriver à décrypter à la lettre de quoi le prophète veut parler dans son image. Vous comprenez ce que vous dites ? Alors là, il y a, je crois, un glissement de concept intentionnel chez Spinoza. Il dit que c'est l'imagination qui parle à travers les prophètes hébreux et que c'est la raison qui parle à travers le Christ. Vous lisez les tractatus. Eh oui, vous avez une question. Ah oui. Il manque la troisième. Vous avez raison. Ah, absolument. Absolument. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que sur les deux premières étapes, on peut pratiquement être tous d'accord. Il y a eu d'abord le temps des Hébreux, ensuite il y a le temps des Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a donc 2000 et quelques centaines d'années, c'est une période de 400 ans de transition entre le temps des Hébreux et le temps des Juifs. Il y avait le temps des Judéens, qui étaient les derniers Hébreux se préparant à être Juifs. Et c'est que l'Hébreu est devenu Juif en descendant en exil. Et on pourrait passer des heures, il faudrait, pour analyser la typologie juive par rapport à la typologie hébraïque. J'ai donné qu'une ou deux petites indications. L'occultation du fait de prophétie. Je dirais peut-être de cette manière, le génie juif est considérable. L'histoire juive a été une histoire héroïque. Excusez-moi si je mets ça au passé, mais c'est pour la commodité de l'exposé. Une histoire de résistance héroïque, comme Fuquet Kroll dit, de vraie résistance dans la fidélité. Il le dit au moins formellement, parce que c'est pas toujours, il le dit lui-même, ce qu'il y a dans le contenu de cette fidélité, mais dans le comportement formel. Et c'est une histoire géniale, parce qu'elle a exprimé tous les génies humains des paysages que nous avons traversés à la manière juive. Je ne connais pas d'autre société qui a été capable d'avoir un folklore aussi universel, de l'exil, c'est ça. Ce que nous appelons en langage de la sociologie les juiveries. Et chacune des juiveries, qu'elle soit judéo-hongroise, du nord ou du sud, judéo-roumaine, judéo-yéménite, judéo-alsacienne, lorraine, puisque vous voudrez, judéo-marseillaise, galloise, c'est une richesse culturelle humaine colossale. Et dans une histoire concrète, d'héroïsme super. Et ce génie juif, comme j'en parle, comme d'ailleurs toute société a son génie, dans le sens simple, est incontestable, indéniable et vertigineux. Il suffit de faire la statistique des prix Nobel. C'est un sujet sur lequel c'est dangereux de réfléchir. Parce que on risque de se demander qu'est-ce que c'est que cette race. Okay? Les juifs. Je ne parle que des juifs, au niveau juif. La proportion statistique de la population juive, la population mondiale est telle, la différence de proportion, que quelles que soient les explications sociologiques, historicistes, matérialistes, tout ce que vous voudrez, le phénomène reste. Ça reste mystérieux. C'est pourquoi c'est un sujet auquel il n'est pas recommandé de parler en public. Parce que dès qu'on entend ça, il y a combien de juifs dans le monde et quand il y a le prix Nobel, incompris. Moi, on ne comprend pas. Les juifs. Et pas seulement ça. Tous les rabbins sont juifs. Et je vais vous dire ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'un rabbin? C'est un juif qui sait lire la Bible des Hébreux. Et pour ça, il faut être juif. Vous comprenez pourquoi tous les rabbins sont juifs? Il n'y en a pas d'autres, il n'y a que des juifs qui sont rabbins. Et sans compter tout le reste. Bon. Et donc, pour reformuler cela, le génie juif est indéniable. Et c'est rien à côté du génie hébraïque. Voilà ce que je dis. C'est rien, tout d'abord, à côté du génie hébraïque. Le génie hébraïque a secoué l'histoire entière. Du côté de l'Occident, vous avez toute cette énorme humanité chrétienne à travers 2000 ans, qui, dans sa bonne foi propre ou dans sa mauvaise foi propre, c'est un autre sujet, à sa manière, et ça, c'est son problème, se considère comme l'héritière des Juifs, non, des Hébreux. Est-ce que c'est clair, justement? Et en Orient, ce phénomène énorme de l'islam, qui, dans un autre style et à sa manière, non seulement se considère comme les héritiers des patriarches hébreux, et pas à la manière spirituelle des chrétiens, à la manière directe, par Ishmaël, hein, mais les héritiers des prophètes hébreux et des rois d'Israël. Si vous entrez dans la prétention à l'islam de l'islam, et l'annexion de l'hébraïsme par l'islam, et ça c'est tout l'autre côté du monde, l'Orient. Sans compter tous les courants culturels énormes de tous les humanismes possibles et imaginables qui dérivent de façon plus ou moins clandestine des intuitions hébraïques. Et il y aurait toute une encyclopédie à réécrire là-dessus. Je pense que vous en êtes d'accord. Que le phénomène hébreu a été un phénomène d'une autre dimension que le phénomène juif, qui lui-même est déjà colossal. Voilà ce qui se passe entre le temps hébraïque et le temps juif. En relation à ces deux dimensions que j'ai indiquées, de description, la dispersion, le décollage, comment dire, déconnectage, nitouk, vous savez, nitouk, natek, séparation, c'est plus que ça.
La rassure.
Oui, du peuple et de sa terre, la prophétie s'arrête. Et surtout, l'évanouissement de l'entité Joseph, de l'entité collective de la nation comme telle. D'abord, il bénit Israël. À qui s'adresse la révélation? Au clan Israël, à travers tel ou tel prophète. Mais elle ne s'adresse pas à ce monsieur prophète, elle s'adresse à Israël, en tant que nain. Et donc, il y a 2000 ans et plus, l'hébreu est devenu juif. La troisième étape, c'est très simple à comprendre, c'est que de notre temps, le juif redevient hébreu, et ça s'appelle Israël. Et c'est là que ça fait contestation. Et à partir de là, il y a contestation. Mais en tout cas, la désignation est très claire. Et je vous parle sur cette phrase en tant qu'israélien, c'est le grand drame de notre époque. Ça veut dire que, alors qu'il y a 2000 ans, les Hébreux sont devenus les Juifs, de notre temps, les Juifs redeviennent les Hébreux et ça s'appelle Israël. C'est ça qui est en train de se faire. La restauration, mais de la nation hébraïque comme telle sur sa terre. Dans la contestation universelle, celle des Juifs y compris, en grande partie, mais lisez la Bible et vous saurez que ça a toujours été comme ça. Donc ça ne nous impressionne pas. Qu'il y ait contestation, ça ne nous impressionne pas. Ce qui nous impressionne et qui nous désole, c'est... Enfin, c'est ce que dit le rave et qu'on va continuer à lire.
C'est une question, alors après...
Non, peut-être tout de suite, si elle est sur le sujet.
Oui. Non, ma question,
c'est de vous rappeler de quoi.
Ah,
tu reviens en deux. Que le père de David est mort en l'engendrant. Ah, tu savais même pas ça. Qui, le père de David? Dans quel chapitre? Oui, à la fin de quel chapitre? Ah, à cause de Ruth? Bon, en tout cas, je ne retrouve pas dans ma mémoire. Il faudrait que nous ayons la référence. Je ne peux pas répondre parce que je ne vois pas le texte. Oui. Bon, admettons, oui. Bon, alors, je dirais de cette manière. Lorsqu'il y a expérience de doute d'identité, alors il y a expérience de doute d'identité. Et ériger l'expérience de doute d'identité en vertu, c'est ça qui est la catastrophe culturelle du monde juif contemporain. Et c'est surtout cela que je voulais expliquer. Je crois que nous aurions intérêt à réfléchir là-dessus. Juste une minute, de substituer la notion de perplexité qui est une grande valeur de dignité à la notion de doute qui est le signe d'une maladie d'identité, d'une névrose d'identité. En ce qui concerne l'identité Israël, lorsqu'un juif se demande, et je crois, si vous m'excusez de reprendre un petit panorama avant de vous donner la parole, je crois que ça a été surtout dans l'ère culturelle des Ashkenazis. Parce qu'en tant que juif, ils étaient confrontés à une civilisation extérieure qui leur disputaient leur identité Israël. Alors ça n'a pas été l'expérience de l'identité sfarade. L'identité sfarade, c'est les Juifs chez Ishmaël. Jamais Ishmaël n'a nié qu'Israël soit Israël, que les Juifs soient Israël. Seulement, il lui refuse place sur terre. Okay. La problématique avec Ishmaël est d'un tout autre sens. Si vous voulez, pour moi, le symbole de cette difficulté d'être du Juif Ashkenaz en tant qu'il est le Juif de la civilisation chrétienne, c'est Kafka. Okay. Mais il n'y a pas de Kafka à Sfarad, ça n'existe pas. Vous comprenez le Zoff, quand il s'agit d'un Sfarad qui est venu rejoindre les Ashkenazis. Là, il reprend la problématique des Ashkenazis. Et il a gardé un peu des parfums de l'Orient, mais c'est quand même devenu un Ashkenaz. Vous comprenez le truc ? Merci beaucoup. C'est ça. Et je crois qu'il faudrait bien réfléchir là-dessus. C'est que toute cette mise en doute de soi doit être rapportée à un écran de la contestation chrétienne de l'identité d'Israël chez les Juifs. Et je vais vous donner encore un autre exemple qui m'a beaucoup frappé, je l'ai peut-être cité il y a quelques années. La controverse vis-à-vis de la théologie chrétienne n'a jamais été conduite par les Ashkenazis, toujours par les Sfaradim. Vous avez remarqué cela ? Et d'où cela vient ? C'est que les Sfaradim procèdent d'un univers culturel islamique qui ne met pas en doute l'identité juive des Juifs, qui l'écrase, qui l'opprime, mais qui ne la met pas en doute. Et donc, tout se passe comme si c'était trop dangereux pour la conscience ashkénaze d'entrer dans ce problème vis-à-vis du chrétien dominant, de savoir qui est Israël. Trop dangereux. Alors ce problème, il y a un blackout. Dans tout le monde culturel ashkénaze traditionnel, il n'y a pas allusion à ce problème. Vous pouvez lire en l'argent en travers, une minute. Tout le Maharal, qui était confronté avec l'Europe chrétienne de la Renaissance, qui était ami personnel de grands hommes de la Renaissance, il n'y a pas une allusion. Pour ceux qui savent lire les sources du Maharal, c'est plein, mais c'est en filigrane. Il n'y a pas une allusion à la problématique judéo-chrétienne. Alors qu'il était en plein dedans et il vivait cet écartèlement. Ce n'est que dans le temps très récent que chez des juifs assimilés du monde ashkénaz, on se préoccupe de judéo-chrétiens, mais c'est que des assimilés, c'est-à-dire ceux qui sont complètement coupés de la culture traditionnelle. Même s'ils sont théologiens, je pense que c'est clair ce que je veux dire. Alors que le Sfarad est complètement décontracté vis-à-vis de ce problème. Imaginons un Tamir Chacham des pays d'Islam parlant du christianisme à l'âge de mon grand-père, au temps de mon grand-père. Oui, nous avons entendu parler d'une religion exotique, des gens complètement exotiques, bien, mais complètement décontracté. Et puis, par exemple, la première fois que j'ai rencontré un curé, me dire, moi, à moi, juif, sfarad, de l'islam, que ça peut être Israël, ça n'existe pas. Vous comprenez le problème. Et alors c'est quoi ? Alors c'est quoi ? C'est un problème qui nous a été imposé par notre rencontre de l'Occident et que nous avons essayé de comprendre dans nos sources, dans nos textes, et pas du tout dans la problématique chrétienne elle-même. Vous comprenez le problème. Donc, un Kafka sfarad, ça ne peut pas exister. Parce que, qui c'est Kafka ? C'est quelqu'un qui a entendu toute sa vie, je le symbolise, l'Européen lui dit, je vais vous rappeler une formule que j'ai peut-être employée une fois, ton livre n'est pas toi, ton Dieu n'est pas toi, ta ville n'est pas toi, toi n'est pas toi, parce que toi c'est moi et toi t'es toi. C'était ça pendant 2000 ans. Vous avez compris le problème. Alors imaginez la réaction de Kafka, il se demande dans quel labyrinthe je suis. Est-ce que je suis moi ? Vous avez compris le problème. Bien, vous avez fini. Une minute, j'irai bien. Une minute. Okay. Exactement. Cette question, peut-être tu n'es pas toi, c'est ça l'enfer. Eh bien justement, quand je fais allusion aux Sfaradim qui adorent la problématique ashkénaze, c'est évident que les Sfaradim de Londres et pas seulement d'Amsterdam, où les Sfaradim de New York aujourd'hui et de Paris aujourd'hui ont le même drame de maralisme inversé 13 fois. Et par exemple, je ne vais pas donner de noms contemporains, simplement je vais vous les citer parce que ce sont des amis personnels, indépendamment du reste. Prenez Memi ou Mizrahi. avec des nuances d'ailleurs. Ce sont des Sfaradis, des prunes. Ils sont d'origine Sfarad et ils ont une problématique ashkénaze. Alors on entend du Kafka dans Mémy et du super Kafka dans Mémy. Vous comprenez le problème? C'est ça, c'est cette variole. Et qui mange du couscous, ou qui mange du guépitéfi, ça c'est tout. Une autre histoire. Hein? Leurs livres sont ashkénazes. Voilà ce que je voulais indiquer. Et vous voyez à quel point l'identité sfarade, par exemple d'Amsterdam, a été convulsionnée par ce problème de Mavani. Mais je vous citerai surtout, avant Spinoza et plus exemplaire, Uriel da Costa. Lisez Uriel da Costa, vous verrez. Voilà, c'est ce drame. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on avance un peu. Alors, vous voyez les trois étapes. Et nous sommes donc, selon l'analyse du Rav, à la fin de la deuxième étape, où du sein du peuple juif ressurgit, et il appelle ça Malchut Bet Yosef, ressurgit la nation d'Israël en tant que telle. Et alors nous sommes tous étourdis, tous les contemporains, étourdis, sonnés, comme on dit, je ne sais pas quoi. Je vais raconter une petite blague israélienne. Sonnés du phénomène, hein, éblouis au point de devenir aveugle, je ne sais pas comment expliquer. Comme si on avait reçu un coup de matraque, d'un coup, cette chose qui s'appelle le Klal Israël, avec toutes ses virtualités d'avenir, apparaît. Et il apparaît, j'y insiste, parce que je crois que c'est cela qui peut nous aider à diagnostiquer que quelque chose s'est passé, ce bal. Il apparaît dans la contestation universelle, dans une coalition vraiment universelle. J'ai fait allusion avant-hier soir aux ambassades des chrétiens pour Jérusalem. Vous rappelez de ça? Je me suis trompé, j'ai dit chrétiens pour Israël, encore une autre genre de communauté, c'est les ambassades pour Jérusalem. Vous savez comment c'est arrivé? C'est que lorsque la Knesset a voté, ça va de soi, mais ça va mieux en le disant, je ne sais pas comment on dit, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, que Jérusalem c'est la capitale d'Israël, scandale. Quoi. Comme si on allait prétendre que Paris c'est la capitale de la France, horreur. Eh bien, le monde entier a retiré ses ambassadeurs, sauf Costa Rica. Il y a une phrase. Il y a un problème en cours, peut-être le Congo belge. Ça s'appelle Zahir. Et les Zahir, il doit être. Et alors, il y a une phrase en panique, qu'il n'y a pas de rêve sans un détail incompréhensible. Costa Rica. Mais alors, un rêve s'est réalisé. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Toutes les nations du monde se sont retirées de Jérusalem. Sauf Costa Rica. Bon, alors, quand on entend des événements pareils, tellement énormes, qu'on ne les voit plus. Tellement énormes. Bon, vous pourrez en parler très très longuement, c'est pas le propos aujourd'hui, ni maintenant. C'est simplement pour mettre en évidence qu'un événement massif est arrivé. Le Machar Ben Yosef est en train de sortir de ses langes, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, du berceau. Ça secoue le monde entier. Et c'est le temps où le juif redevient hébreu. Je me rappelle du temps de ma jeunesse avant la guerre mondiale. Parler de l'hébreu, ben, l'asile était tout près. L'hébreu, comme langue, hein, langue morte. Nous parlions hébreu dans les familles, mais l'hébreu à l'école, l'hébreu dans la cité, l'hébreu à l'université. Et maintenant, l'hébreu, ça va de soi. L'hébreu ne serait-ce que comme langue véhiculaire de la culture des hébreux. Bon. Vous voyez? Il s'est passé quelque chose de radicalement mutation. Nous sommes des mutants. Les juifs redeviennent. Voilà la troisième période. Et ce que la Rav nous dit, c'est que à ce moment-là se dévoilera le problème du conflit entre ma chère Vénus et ma chère Ben David, tant qu'ils n'ont pas réconcilié. Parce que jusque-là, c'était caché. On ne fonctionnait qu'à la manière David, pas à la manière Joseph. Même si ce David savait que Joseph est là, mais il était là de façon occultée. Parce que nous étions les communautés juives de la diaspora, ces juiveries géniales mais devenues caduques, et tous les contemporains du judaïsme aujourd'hui sont témoins que toutes les juiveries sont caduques. Il n'y a pas une seule qui restait dans son ère culturelle. Tous les juifs aujourd'hui, et donnez-moi tous les essais, si vous voulez, on y réfléchira, se réfèrent par mémoire différée, secondarisée, à ce qu'était la juiverie cohérente de leur grand-père. Vous comprenez ce que je veux dire? Et même en Amérique, même partout. Et surtout en France. C'est un monde devenu caduc et nous sommes contemporains de notre propre préhistoire. Ça, on ne le voit pas, parce que nous sommes contemporains de notre propre préhistoire. Et voilà le drame. Je reprends la formule du rave, et quand ça arrivera, cette chose qui vient de ressusciter, le keli, le véhicule qui s'appelle le clan Israël, risque de s'autonomiser, de ne pas savoir qu'il n'est que véhicule. Et donc, c'est là que l'opposition de ce véhicule avec l'âme qu'il devait contenir se dévoile. C'est ça qui est arrivé historique. Je crois qu'on peut avancer maintenant. Oui. Par exemple, on pourrait le dire comme ça. Alors, je dois vous dire que la réalité est beaucoup plus nuancée. C'est de telle sorte qu'il y a à Jérusalem des ambassades, je crois qu'il y en a 13, par hasard d'ailleurs, de 13 pays chrétiens, de 13 pays de chrétienté plus exactement, et pour qu'il y ait une présence symbolique de la diaspora chrétienne d'Israël, puisque la diaspora tout court des hommes, papa des Juifs, a quitté Jérusalem. Et ça va très loin, tout ça, vous comprenez. Et je dois vous dire que nous sommes, j'avais dit l'autre soir, étonnés, nous sommes impressionnés par le débordement, c'est pas du vocabulaire seulement, le débordement d'amour dans lequel il nous étouffe. On n'a aucune idée. Okay. Et bon, peut-être que ça en parlera peut-être un autre jour. Et je ne crois pas que ce soit une stratégie d'étouffement. Je ne crois pas. C'est beaucoup plus important que ça, probablement. Pardon ? Oui. Et ça ne nous rend pas inquiets pour les chrétiens. Ça nous rend inquiets pour le problème d'une rivalité de deux diasporas d'Israël, les juifs et les chrétiens de l'avenir. Vous comprenez ma question ? En tout cas, et je ne sais pas, finalement, le ministre des Finances, qu'est-ce qu'il préférera choisir, la Maccabite des chrétiens pour Israël ou la Maccabite des juifs?
Toutes les ambassades se sortiraient, n'est-ce pas? La communauté européenne, dont j'ai fait longtemps partie, était en train, là, déjà sa représentation à Tel Aviv, elle avait concocté une antenne à Jérusalem, dans les bureaux du King David, ma femme devait y aller, je l'aurais rejointe, c'est ça, et c'est le moment précis, et c'était symbolique, parce que 10 pays auraient été représentés à Jérusalem, et hop, c'est tombé.
Absolument.
À ce moment-là.
Absolument, parce que nous avons un verset que je ne vous citerai pas, c'est qu'il arrivera un temps où Jérusalem sera purifiée des drapeaux des nations. Alors c'est arrivé, ils sont très pieux, ils accomplissent les versets. Bon. En tout cas, pour arriver à notre problème, c'est que la réalité est beaucoup plus nuancée, complexe. Dans cette même société des juifs redevenant hébreux qui s'appelle Israël contemporain, et tous les niveaux déjà de l'identification, de la fusion, de l'unité des tendances apparaissent. Vous savez que si nous faisions une micro-sociologie de la société juive en général, et de la société israélienne en particulier, il faudrait presque une catégorisation par personne. Vous comprenez? On est déjà que Joseph contre Judas, ou déjà un petit peu moins Joseph et un peu Judas. Vous comprenez ce que je veux dire? J'essaie d'exprimer tous les niveaux de nuances. Okay? Là, ici, il s'agit de polarité. C'est pourquoi je voulais répondre à ta question, c'est que il ne s'agit pas que du royaume du Nord. Il s'agit officiellement du royaume du Nord, mais avec dedans l'énergie du royaume du Sud, à l'échelle des individus et de petits groupes qui commencent déjà à s'identifier au niveau de notre problème. Israël
diaspora, ça ne peut pas être dualité, une fois l'instant où dans le présent.
Je vais essayer de vous dire quel est le paradoxe. Est-ce que vous avez entendu parler d'une revue que les élèves d'Orsay éditaient dans le temps qui s'appelait Targum? Non, personne. Quand on est mort, on est foutu. Non, vous ne connaissez pas la préhistoire de votre histoire. Bon, dans cette revue, j'avais vu paraître en ce temps-là un article qui s'appelait Judas et Joseph. Tu te rappelles? Tu l'as, toi, cet article?
En deux
parties. On pourrait avoir une fois une photocopie? Ah, ben très bien. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Et on fait une fois un séminaire là-dessus peut-être, sur cet article. Enfin, on l'utilise là. Alors j'avais indiqué une sorte de paradoxe. Une sorte de paradoxe d'un thème très général qui revient très souvent, de complémentarité des valeurs. Tout se passe comme s'il s'est dévoilé dans le temps de l'histoire, si j'ai bien compris votre question, le paradoxe suivant. c'est que pour pouvoir survivre, Joseph a pris le visage de Judas et Judas a pris le visage de Joseph. Puisque, effectivement, qui se réclame de l'identité juive en tant que spiritualité, c'est la diaspora. Je dis bien officiellement. Et qui se réclame de l'identité juive en tant que nation, c'est Israël, apparemment. Or, concrètement, c'est l'inverse. Parce que la diaspora, c'est les juifs de Joseph, et que Israël, c'est les juifs de Judas. Vous avez compris le... Alors, tout se passe comme s'il y a, là encore, un entrecroisement des valeurs, de telle sorte de construire la convergence de ce qui, si c'était que parallèle, deviendrait divergent. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Et alors, ça nous frappe beaucoup dans cette analyse. Ça veut dire qu'en réalité, le juif de diaspora n'est pas un Joseph pur, puisque c'est un Joseph qui se réclame de l'âme de Judas. Et le juif d'Israël n'est pas un Judas pur, puisque c'est un Judas qui se réclame de l'œuvre de Joseph. Alors, tout ça est très rassurant à l'échelle collective. À l'échelle individuelle, c'est des écartèlements perpétuels. C'est ce creuset d'identité que le Rav décrit en disant, et quand ça se met en place, c'est le chaos qui éclate. Et pour arriver à lire dans ce chaos les lignes de force de la remise en ordre, il nous fallait le Rav. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a une question aussi? Attendez voir. J'ai lu le texte à la fin? Non. Donc c'est... Bon. Non. La guerre de Gog et Magog, pas les guerres, la guerre de Gog et Magog, je vais vous en dire que deux phrases puisque tu as posé la question, simplement pour préciser le terme, du point de vue traditionnel, vous avez la référence dans la dernière sugya du premier chapitre de Brachot. Et d'ailleurs je vous lirai un passage du texte de Maïmonide que nous étudions dans les après-midi puisque je l'ai là à ce sujet. Rappelez-moi ça. On croit à tort, mais je pense que cette erreur n'est pas dans vos milieux, que c'est la guerre de Gog contre Magog, la guerre de Gog et Magog. C'est une erreur. Hein? C'est la guerre de Gog, roi de Magog, contre Israël. Et la Kabbalah a donné une allusion importante, c'est que la gamatria, la valeur numérique de Gog et Magog, c'est 70. Ça veut dire que c'est la coalition des 70 nations contre Israël. Les kabbalistes ont trouvé. Et c'est une éventualité qui apparaît après les commencements du temps messianique. La problématique Nachmanide, Maïmonide, auquel on a fait allusion, est-ce que c'est après Machia ben Yosef ou après Machia ben David ou après le premier stade de Machia ben David? Cette problématique reste là. Parce qu'il y a différents scénarios possibles du déroulement concret de ce même programme et qui dépendent de l'état de mérite, qui dépendent de cinq causes d'ailleurs, je pense que Michel vous l'a expliqué, de cinq dimensions de mérite, mais en particulier du mérite purement et simple. Et les kabbalistes contemporains sont en perplexité sur le fait de savoir, tenez-vous bien, si la guerre de Magog a déjà eu lieu ou si elle n'a pas eu encore lieu. Mais évidemment, aucun prophète ne se lèvera pour vous dire elle a déjà eu lieu ou elle aura lieu. Et quand? Vous comprenez le problème. Mais c'est cet état de fait de la coalition de l'ensemble des nations avec derrière un certain Gog, roi d'une certaine nation qui s'appelle Magog, suivant les kabbalistes contemporains, en particulier je l'ai cité une fois, Chaim Shvili, Chronon Ibraha, vous avez cité Chaim Shvili, il a un texte très important dans un livre qui s'appelle Reshbonot HaGeoula, et où il établit, d'après sa propre exégèse, qu'il s'agit de la Russie. Bon. Mais il a établi ça dans les années 30, avant qu'il se dévoile qu'effectivement nous sommes en guerre en réalité avec la Russie. Mais les choses se mettent en place comme ça. La clause du mérite fait que soit on peut considérer que cette guerre de Gog et Magog contre Israël a déjà eu lieu et qu'elle s'est distribuée depuis 1917 jusqu'à nous, disons, soit qu'elle n'a pas du tout commencé